Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Crème de la Crème, une dernière fois cette semaine et puis avant une semaine de pause, une émission qui, comme tous les vendredis, sera consacrée à une carte blanche et plus précisément comme tous les derniers vendredis du mois. Aujourd'hui c'est Champ Libre A, chronique initiée le mois dernier et qui nous permet de retrouver une artiste rennaise la plupart du temps qui se balade à la bibliothèque des Champs Libres, surtout à l'étage numéro 2. Entre DVD, bouquins, disques, tout ça, aujourd'hui a été choisi par la photographe Lise Godert. Lise Godert, vous l'avez peut-être vu le 20 octobre dernier. Elle donnait une conférence au Champ Libre et elle qui s'intéresse depuis une dizaine d'années aux paysages ainsi qu'à celles et ceux qui les habitent et les façonnent. Eh bien, elle nous parlera de ces paysans et paysanne, de ses paysages, et puis on ira même jusque dans une oasis dans le sud de l'Espagne à travers une évocation de son parcours et de ses projets. On écoutera aussi en fin d'émission tout à l'heure les morceaux de choix. Ronan Chaplin a rencontré des mélomanes qui nous disent tout sur la chanson, le disque qui les a fait chavirer. Aujourd'hui c'est Esther qui nous parlera de Chet Baker, et puis on retrouvera une dernière fois la machine à remonter le son consacré à l'année 1963, et puis aussi une dernière fois cette semaine notre disque d'or de la semaine, Pan Cheaters EP. C'est le nouveau maxi pour le duo Taste, soit Yann Wagner et Alexandre Berly, qu'on connaît mieux sous le nom de La Muerte. Ensemble, ils nous proposent quelques morceaux rétro-futuristes où on aperçoit les fantômes des Residents ou des Buggles, et puis quelques souvenirs aussi des Talking Heads ou de Divo. Voici le morceau qu'on connaît depuis quelques mois, il l'avait sorti en avant-première, le titre Pile of Guilt, un morceau qui nous présente comme une chronique désabusée d'une société déshumanisée où la distanciation sociale est prépondérante et nous exhorte à conjurer la fatalité d'un supposé no future. On écoute Taste. Ce n'est pas un déjà vu, vous l'avez déjà entendu lundi, mais voilà, le EP ne comporte que 4 titres. Bonne émission. We'll be right back.
1963.
Marvin Gaye allait nous donner une suite quasi ininterrompue de tubes pour le label Motown. Vous l'entendiez à l'instant avec ce morceau Can I Get a Witness. On est loin de la soul soyeuse et psychédélique aussi qu'il allait donner dans les années 1970. Là, on est plutôt dans un morceau rhythm and blues bien dansant. On est à la charnière de deux époques au début des années 1960. C'était donc La Machine à Remonter, le son numéro 43, part 5, à suivre, chant libre à Lise Godert. Chaque mois, Canal B et la Bibliothèque des Champs Libres proposent à un ou une artiste d'aller se balader dans les allées de l'étage numéro 2 et parfois dans d'autres étages de la Bibliothèque des Champs Libres pour y trouver DVD, disques, livres qui nous permettent de faire un parcours avec ce même ou cette même invitée. Aujourd'hui, c'est la photographe Lise Godert qui nous baladera entre Aria Wong et Laetitia Sheriff, entre Steve Reich et le documentaire Les Terriens de Ariane Doublet. C'est donc Chant libre à Lise Godert aujourd'hui. Bonjour Lise.
Bonjour.
Qui nous parlera sans doute de nature, de végétation, de l'eau et de celle qui manque parfois, et puis de photographie, de documentaire, de musique, qu'elle soit bretonne ou d'ailleurs. On va parler avec toi, Lise, notamment eh bien, de ce que tu as pu proposer au Champ Libre il n'y a pas si longtemps que ça, Oasis, Je marche dans le lit des rivières, et puis on évoquera jusqu'à Paysan, paysage, une série que tu as faite il y a assez longtemps autour de, vous avez compris, des paysans, des paysannes, du paysage. Toi, tu es née, Lise, dans la nature, alors dans un village, peut-être dans un hameau, mais en tout cas, c'était la nature et la campagne qui t'environnaient.
Oui, je suis née à Gomenay, dans les Côtes d'Armor. J'ai grandi dans une ferme. Mon père était agriculteur et ma mère était femme d'agriculteur, mère au foyer, comme on disait à cette époque. Donc j'ai grandi là-bas, j'ai joué là-bas beaucoup. Je me suis promenée, j'ai ramassé des champignons, voilà.
Et quand est-ce que tu as commencé à la photographier, cette campagne environnante ?
J'ai commencé à la photographier quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts. Dès la deuxième année, je dirais, j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder le travail de mon père de plus près, mes parents, cette vie dans la ferme. Alors, on n'avait pas la photo numérique, hein, c'était de la photo argentique, ça coûtait quand même un peu cher. Il fallait tanner les parents pour acheter des pellicules photo. Mais je photographiais mes amis, un peu comme tout le monde. Et puis, par contre, quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, à Lorient, tout de suite, j'ai eu envie de faire de la photographie, passer du temps dans la chambre noire, voilà.
On va avec toi, évidemment, parcourir, soit en les évoquant, soit en les écoutant, quelques documents trouvés du côté de la Bibliothèque des Champs Libres. Pas uniquement au deuxième étage d'ailleurs,
on verra
comment tu as pu te balader pour retrouver par exemple la suite normande et le film Les Terriens de Ariane Dublin, mais on n'est pas rendu là, on va d'abord écouter la musique qui était peut-être l'une des premières sur lesquelles tu as pu danser.
Ouais, j'ai choisi un disque de Arya Wank, c'est de la musique bretonne, mon père était musicien, enfin est musicien, mon grand-père aussi, et puis ils nous ont emmené mes parents au Fesnouz des tout petits, et je crois qu'il y a quelque chose pour moi de l'ordre justement de la terre, du terrien, de l'ancré, et puis peut-être aussi quelque chose de partage avec les autres. Alors il y a le partage de la musique, mais de la danse aussi, on se tient les mains, on danse avec des inconnus de tout âge, c'est ça que j'avais envie de raconter.
Une sélection musicale de la photographe Lise Godet, notre invitée aujourd'hui dans Champ Libre. Ah, c'était Arya Wank, l'antre 4. On va parler évidemment d'Oasis tout à l'heure, mais on fait une sorte de chronologie inversée. On revient dans le passé, puis on se rapprochera progressivement d'aujourd'hui. Avec, on le comprend, un ancrage rural très fort, mais que tu découvres peut-être plutôt vers l'adolescence, vers le moment où tu commences tes études, où tu te retournes sur finalement l'endroit où tu vis.
Ouais, je crois que, alors adolescente, j'avais juste envie de partir. mais ensuite, étudiante aux Beaux-Arts, on nous a beaucoup amené à réfléchir à ce qui nous entourait. Et moi, ce qui m'entourait, c'était la ferme et le travail de ma mère aussi, qui était famille d'accueil. Donc, il y avait à la fois ce rapport à l'enfance, l'adolescence, à la campagne et à cette ferme. Et puis, c'était le début de la fin de l'affaire. Mon père projetait de la vendre et peut-être qu'il y avait urgence pour moi à garder trace et à la photographier.
Et la campagne qui t'intéresse, c'est pas seulement celle des Côtes d'Armor, pas seulement celle de Gomenet et autour. Non, tu aimes aussi celle d'Ille-et-Vilaine, celle de la Creuse. Et là, on arrive à ce qui se passe en 2013-2014 avec la série Paysans-Paysages. Plus que la nature et la campagne, il y a aussi ceux qui l'habitent, ceux qui la travaillent, ceux qui s'y morfondent parfois, ou ceux qui sont ultra contents d'y vivre. Cette série-là, elle nous montrerait quoi exactement à la fois dans la photographie et puis dans le documentaire sonore que tu as voulu accompagner aussi de ces photos?
C'est né d'une lecture d'un bouquin théorique d'Alain Roger, qui est théoricien du paysage. Il y a un passage dans le livre où il dit que les agriculteurs voient le paysage comme un lieu de travail et de production, mais le regarderaient pas comme nous, ne s'extasieraient pas devant. Et moi, mon père ayant été paysan, j'étais pas exactement en accord avec ce que j'avais lu, et j'ai eu envie d'aller rencontrer des agriculteurs et parler avec eux de paysage, comment ils le regardent, est-ce qu'ils s'y promènent, quel rôle ils estiment avoir sur ce paysage, parce qu'on sait que les paysages ruraux sont en partie quand même construits par les agriculteurs. Donc j'avais envie d'aller fouiller ça en photographie, à la chambre cette fois-ci, donc gros appareil lourd. C'est une technique assez lente de photographie, donc j'avais envie de tester tout ça sur ce projet.
Et là, t'as le côté plus étrange. Voilà, tu peux changer de paysage. En même temps, je t'ai dit, tu le vois pas, mais tu l'entends, la route. Moi, ça me... Pour moi, c'est un peu magique parce que tu passes d'un lieu à un autre comme ça en 30 mètres. Et après, c'est un autre. Enfin, c'est trois lieux différents là. Parce que tu as ça, mais si on avance un peu sur la petite route là, il y a une lande aussi que j'adore aussi là, juste à côté.
Et les enregistrements sonores, la photographie, pour moi, ne peut pas raconter tout ce que moi j'ai envie de raconter. Et parfois, assez souvent même, je passe par le son, les enregistrements ou l'écriture.
De l'écriture, de la photographie, il y en a aussi dans un semblant de quelque chose. Là, c'est très particulier évidemment dans ton travail. 55 textes et photos entre le 17 mars et 20 mai 2020. C'est le confinement et tu pars un peu comme une exploratrice dans les rues qui entourent ton domicile à Rennes. Vous pourrez aller voir ça sur lisegaudert.com. Comme tu as choisi des musiques et puis aussi des images animées, un film de Bruno Dumont, La vie de Jésus. Pourquoi exactement? Parce que c'est la campagne, mais c'est pas tout à fait la même que celle que tu as connue, toi.
Non, c'est la campagne du Nord, mais quand même, elle me rappelle souvent la mienne. Dans La vie de Jésus, je l'ai vu il y a longtemps, hein, ce film, mais voilà, c'est l'adolescence en milieu rural. Il y a des... je sais pas, peut-être 40 minutes d'images de ce film qui se passe sur une mobylette. Moi, ça m'avait pensé à tout ça. C'est à la fois tendre et dur, et c'est tout ce que je ressens de la campagne, de la tendresse et de la dureté en même temps.
Toi, tu ne faisais pas de mobylette
J'ai pas eu le droit, c'est un sujet sensible.
Quand tu vas trouver du travail...
Regarde-moi pas avec ça.
Le travail, il va pas venir tout seul, hein, il faut le chercher. Hein.
Pourquoi la vie de Jésus? Ben ça, c'est beaucoup mieux demandé. Mais je pense pas que... Je pense pas que ça a trop quelque chose à voir avec le film, moi, déjà.
Ça va pas, là, dégage.
Nique ta mère, sale bigot.
Ben, ça s'appelle La vie de Jésus parce que il y a du bien, il y a du mal.
Ben, la vie de Jésus, on va voir là. Je sais pas, dans le film il y a quand même beaucoup de violence et tout. Moi je sais pas, La vie de Jésus, je comprends pas de tête. Alors,
Faut quand même pas te faire chourer ta meuf par un
bico, sérieux. Ferme ta gueule.
Allez, je déconne.
Si ça t'arriverait, ce serait pareil.
Ouais, je sais pas, pour moi, ça doit être par rapport à la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, ce qui s'est passé.
Il y a une constance, je trouve, dans le travail de Lise Godert depuis le début, c'est qu'on y voit des arbres, on y voit des visages, on y voit des humains, et on y voit des forêts, des rivières, et puis du bocage. Ça, c'est une série que tu as fait, les faiseurs de paysages, en trois volets. Pourquoi est-ce que ça a commencé par la forêt, finalement ?
Ce projet, je l'avais écrit d'abord en un seul volet, c'était les faiseurs de paysages. J'étais en résidence au village à Bazouges-la-Pérouse, et puis je me suis rendu compte très rapidement qu'il allait me falloir beaucoup de temps pour pouvoir explorer ce projet. L'idée, c'était d'aller rencontrer les gens qui construisent le paysage rural, en partant du principe qu'on le traverse souvent en voiture.
On s'arrête pas
et puis on se dit pas grand chose sur ce paysage, on n'imagine pas qui construit ce paysage, et donc j'avais envie de les rencontrer. Et puis donc au bout d'un an, j'ai rencontré énormément de monde et j'ai décidé de travailler en chapitre. Et donc la forêt, y a une forêt domaniale à Bazouges-la-Pérouse, la forêt de Villequartier, et j'ai été très bien accueillie par le garde forestier et j'ai eu envie d'explorer. J'ai pas photographié tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré énormément de monde et ça, c'était la surprise aussi. C'est de me dire, moi, je pratique la forêt le week-end pour aller ramasser des champignons éventuellement. Mais quand on y va la semaine, c'est une forêt bruyante avec des machines et beaucoup de gens qui y travaillent. Des travailleurs qui viennent de partout d'ailleurs, de France et de plus loin.
Ça se poursuivait, cette série, avec le bocage. Cette fois-ci, c'est pendant une résidence au Centre d'art contemporain de Pont-Main. Qu'est-ce qui était différent de la forêt, finalement ? C'est le bocage, c'est la forêt en tout petit, entre des champs ?
Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Après, c'était un peu compliqué à ce moment-là, parce que c'était un moment où on votait le PLUI dans cette communauté de communes. Donc, c'était un moment difficile et je suis arrivée... je me suis sentie un peu envahie par ce projet.
Parce qu'on le sait quand même que le remembrement et tout ce qui en a découlé a fait quand même créer plus de problèmes finalement que ça n'a apporté de solutions. Ouais. Et le bocage, le remembrement, c'est la disparition du bocage finalement. Ouais. Donc est-ce qu'on a pu voir, à l'époque où toi tu étais en train de travailler sur le bocage, un changement dans l'envie de le faire réapparaître, ce bocage, ou pas ?
Eh bien, c'est compliqué justement, c'est une question compliquée, parce que dans l'absolu, on a envie de bocage, mais qui s'en occupe, comment, avec quel argent, enfin il y a toutes ces questions. Et puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on parle de bocage, mais c'est des gens de mon âge qui parlent de bocage qu'on n'a jamais vu, parce que le bocage, il a disparu dans les années 70, 80, enfin pas partout, mais voilà. Et moi, je suis née dans les années 80, donc c'était déroutant de devoir parler finalement d'un paysage que je n'ai pas connu.
En tout cas, tu l'as photographié, celui qui restait, le paysage.
Celui qui restait, oui. J'ai essayé. Mais c'était des vrais débats à ce moment-là sur cette communauté de communes. Et moi, je me suis sentie tiraillée d'un côté et de l'autre. Et c'est comment on se place en tant qu'artiste dans ces sujets et comment on garde notre place, en fait. J'ai appris ça pendant cette résidence.
Lise Godert, dans ton travail, on voit de plus en plus apparaître la politique, en fait, de loin comme ça, puis finalement ça se rapproche de plus en plus, et ton travail, il est à la croisée de l'esthétique, le politique, le sensible. Tu le vois consciemment arriver, ce moment où tout s'entremêle comme ça ?
Ouais, je le vois arriver, et puis parfois il me fait peur. Enfin, c'est comment on parle de tout ça, comment on en parle justement. Je suis je suis artiste, photographe, bien sûr j'ai mon point de vue, mais comment je parle de tout ça et sans dire n'importe quoi. Donc ça c'est toujours la grande question. Et puis surtout aussi je vais photographier des humains, donc j'ai envie de faire attention aussi aux personnes que je photographie et donc au discours que je véhicule ensuite, et je veux pas qu'on personnifie certaines choses sur certains visages. Petit à petit, j'assume de plus en plus mon propre point de vue, et ça, je l'ai senti très fort en partant en Espagne en 2021.
On va arriver sur ce voyage espagnol, mais qui est plus qu'un voyage, c'est une résidence au long cours. La rivière, en tout cas pour terminer, c'est faiseur de paysages. La rivière autour de Rennes, par exemple, elle est un peu amochée, un peu abîmée, et je parle pas de la Seiche, je parle de la Vilaine. La Seiche, c'est encore pire. On se souvient de Lactalis, cette rivière-là. Tu voulais aborder l'endroit même et les gens qui vivent à côté ?
C'est un autre aspect pour le coup de la rivière. J'ai travaillé sur la rivière du Léguer qui est près de l'Agnon, qui traverse l'Agnon. C'est une rivière qui a un label naturel et sauvage, mais qui a été très polluée dans les années 80-90. Et c'est suite à des grosses pollutions qu'ils ont décidé de travailler sur cette rivière. Et j'ai rencontré plein de gens qui travaillent autour de cette labellisation et donc de la sauvegarde de ce label et de cette rivière naturelle et sauvage. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi l'usage de ces mots naturel et sauvage aujourd'hui, quand on voit ces gens qui interviennent constamment sur cette rivière pour qu'elle reste naturelle et sauvage. Enfin, vous voyez.
Vous retrouverez des photos, évidemment pas toutes les photos de ces séries-là. Ça a à chaque fois été montré dans les lieux où tu étais en résidence et ailleurs, mais retrouverez en tout cas quelques-uns de ces beaux paysages et de ces beaux portraits sur lisegaudert.com.
Dans le grand silence des campagnes, va-t'en savoir ce qui se trame. Il y a parfois un train qui passe, dont le bruit très vite s'efface. Des pancartes et des numéros sont essaimés dans le village. Des Anglais vivent dans l'école. Le bus prend les enfants très tôt. Dans le grand silence des campagnes, on ne se voit plus trop au cellier. À boire le cidre au même verre ou la bouteille de Perrier. Où on avait mis l'eau de vie dont on ne comptait plus les degrés. Et qui sentait le fruit pourri, faisait croire à l'éternité. Des gosses traînent autour de l'église qui ne comptent plus que sur les heures. Pour rappeler à son souvenir ce pour qui l'enfer est ailleurs. Le clocher n'a plus la main mise à part à l'heure de décompter. Celle ou celui qui est tombé, finalement ou pas traîtrise. Dans le grand silence des campagnes, on en voit juste débarquer. Pour qui la ville était trop chère, ou que la ville a rejeté. Il s'engueule avec le voisin qui a toujours vécu ici. À cause du chien dans le jardin, ou de cris poussés dans la nuit. Le grand silence des campagnes, c'est dedans que tout a bougé. Dehors, ce sont les mêmes arbres, la même odeur de foin l'été. Mais dedans, c'est tout comme en ville, les mêmes écrans allumés. Et ce grand sentiment de vide et la peur de l'humanité. Des fougères bouchent le chemin que les troupeaux avaient creusé, traçant une double éraflure que rien ne devait effacer. là une ouverture, une allée bordée de bouleaux. Je m'avance au devant des pièges qu'enfant j'avais posé très tôt.
Vous avez toutes et tous reconnu qui nous entendions à l'instant. Pas beaucoup de précisions supplémentaires à donner. Le texte se suffisait bien et parlait, eh bien oui, de comment on vit à la campagne. Et on ne le sait pas forcément. On peut le voir aussi dans des films documentaires que tu as voulu nous proposer aujourd'hui, Lise Godert. Et là, je te demande, si tu veux bien, eh bien de nous présenter ce coffret, peut-être pas, mais un des films de la suite normande de Ariane Doublet, dont on va écouter un extrait juste après.
C'est le documentaire Les Terriens que j'ai regardé il y a bien longtemps, mais qui est important dans mon parcours. Ça raconte une éclipse solaire en 1999. Peut-être vous vous en souvenez. Moi, je me souviens qu'on cherchait tous des lunettes pour la regarder.
Moi, je me souviens précisément que j'étais à Dinan et qu'on ne l'a pas beaucoup vue. Mais on avait des lunettes quand même.
Et elle prend le prétexte de cette éclipse, en fait, pour suivre les gens d'une ferme, qui vivent dans une ferme. Et donc, ça parle de la Terre, ça parle du soleil, de la lune, enfin des éléments. Et c'est un très beau documentaire.
Et ça change un petit peu des documentaires habituels qu'on peut proposer quand on pose la question à des spécialistes ou des grands connaisseurs du documentaire. Donc Ariane Doublet, Suite Normande, ça vous le trouverez pas à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, mais c'est quand même dans l'enceinte du bâtiment.
Hey! Hey! Je suis pas prêt, ça y est. Allô?
Pisse! Allez!
Allez là-bas!
Allô là!
Répondez, c'est quoi ça?
Non. Les vaches, pour l'éclipse, ça pourrait lui faire un effet sur les yeux quand même, non?
Bah, ça, je sais.
L'œil d'une bête, et puis, c'est un peu pareil. Bon, franchement, il ne vaut pas regarder en l'air, mais ils mettent bien que pour les chiens qu'il faut les laisser enfermer, puis tout. On ne sait jamais, hein. Ça pourrait arriver. Hein.
On va fermer les vaches et les tombes.
On va leur acheter des lunettes.
Bah, on rigole.
Oui, mais.
On n'est jamais passé par là. Enfin, on ne peut pas savoir, parce qu'on
ne peut pas savoir. Hein.
On va se balader un peu plus loin maintenant, parce que tu connais bien, outre la Creuse, la région de l'Agnon ou de la Bretagne, eh bien une région du sud de l'Espagne, ce qui t'a valu, alors c'est pas ta connaissance de cette région-là qui t'a valu une résidence à la Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid, mais tout de même, tu passes du temps dans le sud de l'Espagne depuis quelques temps. Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas ?
J'ai été sélectionnée pour faire une résidence à la Casa de Velázquez en 2021. Et puis, j'ai proposé un projet qui s'appelait Oasis. L'idée était de se questionner sur ce mot oasis qu'on entend beaucoup aujourd'hui en France pour parler de nouvelles formes d'agriculture, nouvelles formes de vivre ensemble, les colibris, Pierre Rabhi. J'ai proposé donc d'aller chercher une oasis en Espagne et de s'interroger sur ce sujet. Et en arrivant à Madrid, j'ai poser la question aux Espagnols que j'ai rencontrés, où est l'oasis ? Et on m'a indiqué une zone en Andalousie qui s'appelle l'Axarquilla, qui est entre Madrid et Motril. C'est une zone verte et montagneuse où on produit l'avocat et la mangue à grande échelle.
On produit des fruits, des
fruits tropicaux,
que des fruits surtout d'ailleurs, qui ne sont pas censés être trouvables par ici. Qu'est-ce qui fait qu'on les trouve maintenant ?
Ils sont de plus en plus trouvables parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait. Donc il y a de la demande, donc on décide de produire pour gagner de l'argent.
Vous avez peut-être vu des photos de Oasis il y a quelques mois au Champ Libre. Si vous ne les avez pas vues, on va en parler un petit peu de ces ambiances que tu as captées en photographie avec là encore du visage, du paysage, une constante chez Lise Godert. Et cette photo que tu m'as montrée, en fait, assez captivante, prise de loin, tu vas nous dire en quelles circonstances, on dirait un lac de métal, en fait. Cette photo-là, elle est née comment ?
Eh bien, moi, j'ai fait des recherches sur cette partie-là de l'Axarquia, mon oasis. Et puis, j'avais vu une photo d'un lac, d'une embalsée, on dit là-bas, pleine, hyper beau, avec des jeux sur ce lac, des gens qui prennent le soleil autour de ce lac. Donc, je me suis dit que j'allais aller là-bas, voir et me rendre compte de cette peut-être oasis. Et puis, quand je suis arrivée, je suis arrivée devant une terre ocre, desséchée et un lac presque à sec aussi. Donc c'est une photographie de cet endroit qui a été le point de départ ensuite de mes recherches. Mais aussi j'y ai passé beaucoup de temps, j'y suis retournée tout au long de l'année pour voir si ce niveau d'eau bougeait. Et puis pour y faire des photos au crépuscule, ça a été mon heure de travail toute cette année-là, prendre des photos juste avant la tombée de la nuit. Sûrement pour accentuer mon propos, hein, de peut-être la fin du monde, on ne sait pas. Mais autour de ce lac, finalement, je me suis retrouvée face à des spectacles formidables de chants d'oiseaux, d'animaux.
Depuis quelques instants, Steve Reich, sélection que tu as faite aussi pour un peu te rappeler ces moments un peu suspendus.
Ouais, il y a quelque chose dans cette musique, moi, que je trouve, organique, qui me prend aux tripes. J'ai l'impression de revivre ce moment un peu de magie dans un truc qui est un peu affreux en même temps. Et cette musique-là me fait penser à ces instants-là que j'ai passés seule autour de ce lac.
tu aimes les travaux au long cours. Ce que tu as entamé avec Oasis, tu vas le poursuivre ?
Oui, il y a une idée de poursuite. J'en parle pas beaucoup pour le moment parce qu'on est en train de, on est en train de travailler sur ce projet. Mais l'idée, ça va être de continuer à questionner, peut-être pas Oasis, mais quelque chose qui découle de l'Oasis.
Ni le groupe anglais, ni le chanteur Carlos n'ont aucun rapport avec ça. Désolé, j'étais obligé de penser à ça.
Ah mince,
aussi.
J'aurais pu ramener ça, la musique.
Non, ça n'a aucun rapport. Donc on les voit, ces photos de paysages. Et puis ce visage incroyable, celui de Fernando, qui a une tête, on dirait qu'il était là à l'aube de l'humanité et qu'il sera là à la fin du monde aussi.
Fernando, donc dans, autour, quand j'ai constaté l'état de ce lac et puis l'état de ces rivières asséchées, c'était dur. Et puis j'ai eu peur aussi. Je viens de Bretagne, en plus on n'est pas habitué à attendre l'eau à ce point-là. Voilà, il y avait quelque chose de fin du monde qui me faisait peur. Mais puis je me suis reprise en me disant bon alors et dans tout ça, est-ce que je peux trouver une oasis ou quelque chose qui serait de l'ordre de la résistance? Et j'ai rencontré Fernando, qui est un petit agriculteur de cette zone-là, et qui est né là, qui voit l'eau disparaître et qui se demande comment il fait maintenant, qu'est-ce qu'il peut produire. Et donc il teste, et là il produit des cactus pitaya qui produisent les fruits du dragon. Et puis il fait des tests de plantes et puis il se dit peut-être j'arriverai à vendre ça et à en vivre, voilà.
Et donc il en vit, tant bien que mal, peut-être.
Il en vit, mais souvent les petits agriculteurs en Espagne, ils ont d'autres boulots à côté, ils font pas que ça, c'est plutôt soit des grosses entreprises, soit des petits agriculteurs, mais qui font autre chose.
Là, pour l'électricité, du coup, j'avais eu RDF qui m'avait dit que c'était à la mairie. Je vais voir la mairie. Ah bah non, c'est à URDF de s'en occuper. Donc c'est cool, ils se rebalancent le dossier. Eux aussi, personne ne veut faire le boulot. Enfin bon, c'est pour tout, quoi. Puis pareil, hein, la réserve d'eau qu'on voulait faire, là, du coup, j'ai tout vu en même temps. Ah bah non, c'est interdit en zone humide de faire une réserve d'eau, forcément. C'est logique. Donc voilà, quoi. Donc ils commencent à me gonfler à son insu, là. Je vais aller voir ailleurs comment c'est, parce que clairement, les bêtements, les roues, il y en a ras-le-bol, quoi. Franchement, c'est bon, quoi. Donc voilà pourquoi, ouais, non, je suis bien remontée là, mais ils ont réussi à me pomper toute mon énergie, c'est cool. On est tout arrêté maintenant. Je suis venue désherber, ça me détend. Je vois, on a de la chance cette année, là, on a du désherbage. Franchement, j'en peux plus là, ils m'ont complètement bouffé. Je dis, j'arrête là, hein. Je m'installe plus. Hein. Je m'installe plus, je vais retourner faire mes études et je m'installerai dans 10 ans quand à la base je voulais faire. D'ailleurs, je voulais pas m'installer à mon âge à la base. Hein. C'est juste qu'il fallait reprendre la ferme en urgence. Donc voilà, je me suis dit ok, mais là en l'occurrence, j'ai plus rien à foutre là. Donc je vais reprendre mes études et je m'installerai plus tard. Hein, et puis surtout pas à Saint-Sulpice. Voilà, je vais te dire, bien, c'est un plus beau village de France, ils vont les garder pour les touristes. Hein, mais c'est pas moi qui vais venir cultiver ici. Hein. Ils vont garder leur maïs, hein, ils n'auront pas des belles plantes.
Pour aller vers la fin de ce chant libre à Lise Goder, eh bien vous entendiez un extrait du documentaire Anaïs s'en va en guerre. Alors si je dois m'en référer uniquement au dos du DVD, qui sème le bio récolte le buzz, le monde, bon, le nec plus ultra de la vie alternative, les inrecuptibles. Pas très inspiré, j'ai l'impression, sur le coup, les journalistes là. Mais toi, non. Ça t'a touché un peu plus que ça, ce film.
Ouais, c'est un film de Marion Gervais. Moi, ce que je retiens de ce documentaire, c'est cette jeune femme qui a envie de s'installer pour produire des plantes et des plantes médicinales. Et c'est tout son parcours et c'est toute la force qu'elle y met. Et moi, je trouve ça inspirant.
Je le disais tout à l'heure déjà, hein, tout s'en mêle, le sensible, le politique, l'esthétique. Tu es photographe, Lise Goder. Ça n'empêche que c'est pas uniquement le beau qui te tente, mais le signifiant, ce qui veut dire quelque chose.
Ouais, c'est même vraiment pas le beau. C'est des remarques qu'on m'a fait plusieurs fois, mais non, je cherche pas le beau ni le spectaculaire, plutôt le normal. Ce serait bizarre de dire ça, mais ce qui nous entoure, ce qui nous est proche, quoi, c'est ça qui m'intéresse.
On va terminer en musique avec cette discussion. Avant ça, tout de même, puisque tu as arpenté les allées de l'étage numéro 2 à la bibliothèque des Champs Libres, tu es même allé te balader dans d'autres étages, tu as pu y voir pas mal et te souvenir de pas mal de chocs esthétiques en tout cas qui t'ont frappé, et ça nous amène à ce qu'on n'aura pas comme extrait, ni qu'on pourra pas entendre, qu'on pourra pas évoquer, les choses que tu n'as pas pu mettre dans cette émission.
Eh bien oui, j'aurais vraiment aimé vous faire écouter Pendant que les champs brûlent de Niagara, parce que je trouve que c'est très actuel. Moi ça me touche, c'est peut-être le morceau que j'écoute le plus souvent. Ça me parle à la fois de mon travail, mais ça parle de la société, ça parle du monde. Et puis peut-être que je comprends pas tout dans ce morceau, mais c'est pas grave. Enfin, il me fait ressentir beaucoup de choses. Et puis j'aurais aimé vous faire entendre un extrait d'un documentaire de Tanguy Lecras qui s'appelle « Je ne veux pas être paysan ». Ça raconte la non-transmission d'une ferme, et ça, moi, dans tout mon travail, la ferme de mon père, elle n'a pas été transmise. Il a souhaité ne pas la transmettre à ses enfants, mais par contre, la transmission, je pense qu'elle s'est faite par l'image, le travail, la photographie. Et puis un film espagnol, alors c'est le titre en français, ça s'appelle « Nos soleils » de Carla Simon. C'est un magnifique documentaire, film, pas un documentaire, mais ça raconte l'histoire d'une ferme qui est menacée par l'installation de grands panneaux solaires, mais c'est du point de vue des enfants. Et souvent, on parle peu du point de vue des enfants dans les fermes. Et pourtant, c'est pas rien de grandir dans une ferme avec des parents agriculteurs.
Et je crois que tu avais aussi un DVD de Raymond Depardon, mais là, tu t'es dit non, c'est trop évident, trop facile.
Oui, je me suis dit qu'on en avait entendu beaucoup parler. Et puis, j'aime beaucoup de Raymond Depardon, mais parfois, peut-être, c'est une vision assez passéiste de l'agriculture. Et j'avais envie de montrer plutôt des jeunes.
Et on va terminer, je le disais, en musique avec une chanteuse rennaise qui, elle aussi, mêle l'art et la politique et encore plein d'autres aspects du monde dans son écriture. C'est Laetitia Sherif. Parce que oui, tu fais aussi des photos de commandes, ça peut arriver. On peut en voir sur ton site lisegoder.com que tu as pu faire avec Spéléographie, des photos de Nina Anticot, de Brigitte Giraud par exemple, pour en nommer deux. Et puis aussi, tu as travaillé avec Laetitia Sherif, dont par ailleurs tu apprécie beaucoup le travail.
Oui, c'est marrant. Je l'écoutais quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, et puis je me suis installée à Rennes, et puis on s'est rencontrés, et puis elle m'a demandé de la photographier. Mais surtout, Laetitia Sherif, comme plein d'autres femmes musiciennes, P.G. Harvey, Feist ou d'autres encore, pour moi, sont des femmes hyper inspirantes.
Vous ne retrouvez pas tout de suite Lisegoder au Champ Libre.
Mais bientôt, j'espère.
Bientôt, on espère. Il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et puis, il y a eu les expositions, notamment autour de Oasis. Je marche dans le lit des rivières. Ça, c'était l'hiver dernier. Il y aura peut-être une suite, on l'espère. Retrouvez tout sur lisegoder.com. On termine donc avec cet encouragement à une révolte positive par Laetitia Sherif. People rise up. Merci, Lise.
Merci. We'll be right back.
Merci à Cécile Durand et Clarisse Mérour de la Bibliothèque des Champs Libres et puis Antoine Blanchet des Champs Libres pour leur concours dans la réalisation de cette émission Champs Libres. Aujourd'hui, nous parlions avec Lise Godert pour la deuxième émission. On se retrouve dans un mois.
Morceau de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Morceau. Le morceau.
Emporter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Born to be Blue de Chet Baker. Donc il y a un morceau de jazz assez calme et doux. C'est un morceau qui m'accompagne plus dans la durée, c'est-à-dire que je l'écoute pas souvent, mais je l'écoute depuis longtemps.
Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen. 'Cause I was born to be blue.
Mon grand-père écoutait beaucoup de jazz quand j'étais petite. J'entendais souvent dans la cuisine, dans la salle de bain, quand il passait, il mettait sur plusieurs radios en même temps. Et ça, c'est le premier morceau et le premier artiste que j'ai découvert vraiment toute seule. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai, au fil du temps, c'est tombé dans la conversation avec mon grand-père et donc du coup il était un peu fier et j'ai senti que ça lui faisait plaisir et que lui connaissait aussi, donc on en a parlé et voilà. Et donc c'est un morceau assez personnel.
I'd like to laugh, but there's nothing that strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for. 'Cause I was born to be blue.
Quand je suis dans des endroits où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de monde, où ça s'agite, où je peux sentir qu'il y a un stress qui peut monter, tout ça, quand je mets le morceau, je sens que ça me calme, que la musique est douce, que c'est comme si les choses inquiétantes n'avaient plus vraiment d'importance. Les instruments et sa voix sont vraiment très douces et très légères et du coup ça emporte le stress.
When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel.
Les morceaux tristes, moi j'en écoute pas trop parce que ça a tendance à plus me rendre encore plus triste que ça l'est déjà et me conforter dans ce sentiment-là. Sauf que celui-là, il est différent, il est plus léger et je ressens moins la tristesse à travers lui. Et du coup, ce que je disais, c'est que il m'accompagne plus dans mon sentiment qu'il m'emporte et qu'il me...
Merci à Ronan et merci à Esther pour ce morceau de choix. C'était le numéro 10. On se retrouve pour de nouvelles émissions Crème de la Crème à partir du lundi 6 novembre. À bientôt pour de nouvelles aventures. Passez de bons moments sur Canal B ou ailleurs. Ciao.